Popopienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est podcasty. Double raison de se réjouir pour les amateurs de vendredi et pour ceux de podcast, puisque dans l'heure qui vient, vous allez découvrir plein de nouveaux podcasts. Et croyez-moi, ils sont légion. Mais nous sommes là pour trier le bon grain de livret et vous aider à vous y retrouver dans la jungle podcastienne sans avoir recours à une machette ou à une débroussailleuse. Aujourd'hui, deux jeunes femmes sont à l'honneur. Ilham Mad et Mary Royer pour leur podcast intitulé « Entre chez Louis Média ». Alors pas tant dans le sens de « entre ici Jean Moulin » ou « entre deux tours », mais plutôt « entre », autrement dit, dans le temps et l'espace qui séparent deux états, disons par exemple l'enfance et l'âge adulte, c'est un exemple. En voilà un podcast qui n'a pas le cul entre deux chaises et dont nous allons longuement parler aujourd'hui. Popo Podcast, épisode 31, c'est parti.
France Inter, Popopop, Antoine de Caunes.
Bonjour Ilham Mad, bonjour Mary Royer.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue à toutes les deux dans Popo Podcast. Alors avant toute chose, arrivez-vous à prononcer correctement le nom de cette émission ?
Popo Podcast ?
Non, je ne suis pas content.
Non, c'était pas ça.
Mary, okay, essayez.
3, 2, 1. Popo Podcast.
Non.
Popo Podcast.
Oh, je prends. Je prends, mais vraiment d'extrême justesse. Bon, vous formez toutes les deux un binôme de podcasteuses depuis votre rencontre en 2015. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre background à toutes les deux et ce qui vous a rapproché dans un premier temps? Qui s'y colle?
Ilham, t'es très forte.
Ilham, qui est très forte.
Pression. Alors, en 2015, moi, je rentre du Maroc. Et je suis partie faire un reportage pour Arte Radio sur les athées marocains. Et donc, je reviens avec mes valises, voilà. Et dans la pièce, dans la torpeur de la salle de montage d'Arte Radio, il y a Mary Royer. Donc, tout le monde a les casques et tout le monde est très concentré. Moi, je suis un peu en bordel avec mes valises et tout ça. Et donc, Mary est la seule à se retourner, à me demander si j'ai besoin d'un coup de main. Voilà.
Bon. Donc voilà pour la rencontre entre nos deux podcasteuses invitées aujourd'hui pour parler de Entre, ce podcast dont nous allons longuement parler dans l'heure qui vient. Vous abordez bien des sujets différents a priori, mais un des traits communs de vos enquêtes, c'est de prendre le temps de laisser les gens parler et de les écouter surtout. Et même dans votre cas, Mary, pour ce qui vous concerne, votre série Première Loge, c'est vous-même que vous avez écouté en quelque sorte. Et cette loge, c'était pas une loge de théâtre, c'était une loge de concierge d'une certaine Fortuna.
Exactement. C'était comment dire. Je pense que de m'autoriser à sauter la barrière avec le micro, aller rencontrer des personnes que j'avais peut-être jugées, j'avais peut-être mis dans une case, et de les interviewer, d'aller au fond et de comprendre que c'est pas noir ou blanc, c'est très gris. J'ai pu me regarder autrement. Alors, je faisais ce job alimentaire, le énième job alimentaire, et je me retrouve dans une loge. À l'époque, je suis aussi rappeuse. Ça me coûte très cher d'être rappeuse à l'époque, parce que qu'est-ce que c'est que ce job? Qu'est-ce que c'était que ce chemin que j'avais pris à 27 ans? Donc, il fallait que je fasse plein de jobs alimentaires pour essayer de subvenir à mon rêve. Et je suis dans cette loge. Je me rends compte que j'ai grandi quasiment dans une loge de gardienne, puisque j'étais gardée par ma gardienne. Et je me rends compte que mon rêve, et ce que je préfère finalement dans la scène et le rap et tout ça, c'est ce que je ressens dans la loge. Et donc, je raconte une autofiction d'un mois d'août à Paris, à douter de mes ambitions de rappeuse, mais finalement à me trouver.
Et ça démarre comme ça. Et vous, Ilham, vous avez produit un podcast sur cette affaire effrayante d'un groupe WhatsApp entre gendarmes qui échangeaient des propos incroyablement racistes et violents. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à choisir cette histoire-là, par exemple ?
Alors je dirais que c'est assez valable aussi pour tout ce qu'on fait avec Mary. Je pense que c'est aussi là-dessus qu'on se retrouve toutes les deux, c'est que c'est un peu les histoires qui nous choisissent. Là en l'occurrence, Alex, moi je le connais depuis 2010, donc ça faisait longtemps que je le connaissais. J'avais abordé avec lui les problèmes qu'il pouvait rencontrer au travail, mais en 2010... il était tout seul. Donc c'était sa parole contre le reste du monde.
Alex, c'est celui qui a pris la parole pour dénoncer.
Voilà, exactement, celui qui parle dans le documentaire. Et donc je lui ai dit, écoute, surtout à cette époque, un policier en service qui parle voilà, du racisme au sein de son unité, il n'y en avait pas. Mais le risque, c'était que lui, ça le mette vraiment en danger. Donc, comme il n'avait pas réussi à avoir d'autres témoignages qui pourraient corroborer le sien, on a laissé tomber et je lui ai dit, écoute, le jour où tu as des preuves, voilà. Et donc, le jour où il a eu des preuves, il m'a appelé, 10 ans plus tard.
Alors, je brûle un peu les étapes, hein, parce que la liste de vos enquêtes à vous deux et donc de vos podcasts est longue comme le bras, mais nous allons aujourd'hui parler de deux choses que vous avez récemment réalisées. La première, ce sont deux épisodes, un chacune pour l'instant, du podcast Entre sur Louis Média, qui interroge dans sa troisième saison les garçons, petits et grands, sur ce que c'est aujourd'hui que d'être un garçon. C'est une question d'ailleurs que je me pose toujours. On en parlera avec Charline Roux, qui a certainement un point de vue picard sur la question et qui va nous rejoindre dans un instant. Mais on parlera aussi du podcast Filles de lutte que vous avez réalisé ensemble en 2020 sur la transmission du féminisme. Mais avant tout ça, je vous propose d'écouter un petit peu de musique. C'est Porté par le vent, c'est Sébastien Tellier. Porté par le vent. Ouh, Sébastien Tellier, c'est sur ce son que Charline Roux vole à mon secours, porté par le vent.
Je roule, pour être tout à fait précise.
Bonjour Charline. Charline, pour commencer, puisque nos invités ont chacune produit un des épisodes de cette série pour Louis Média, pouvez-vous nous dire ce que c'est que Entre ?
Eh bien, c'est une question avant tout. C'est quoi être un garçon en 2022 ? Question posée à des jeunes gens dans cette troisième saison, donc à des garçons adolescents d'aujourd'hui, de 9 à 15 ans, de milieux et de cadres de vie différents pour établir un panorama de la masculinité de demain. Avant d'étudier la réponse que vous donnent vos jeunes interrogés, permettez-moi de vous la poser. Mary et Ilham, pour vous, c'est quoi un garçon de 2022?
Le premier truc qui me vient, c'est un être perdu, j'ai l'impression. Mmh. Voilà, mmh. J'ai l'impression qu'en 2022, les hommes sont perdus et du coup plus accessibles et...
Ouais. Perdu parce qu'ils ont perdu leur repère
parce je pense parce qu'il y a eu il y a une explosion des codes, enfin des trucs qui étaient bien ficelés avec des injonctions auxquelles on avait tous plus ou moins consenti, voilà, et que là oui c'est dernières années, on va dire ces 10 dernières années, je pense que ça a été... Il y a eu MeToo, mais je pense qu'il y a eu... Enfin, voilà, MeToo, c'est pas venu de nulle part. Donc
ils sont en chantier, donc.
Ouais, c'est ça, ils sont en transition, ils sont entre. Ouais. Ouais.
Marie, vous êtes d'accord?
Je suis pas sûre.
Tant mieux.
C'est bizarre.
Tant
mieux. Mais parce qu'on n'a pas eu les mêmes garçons, en fait.
Les mêmes acteurs, plutôt.
C'est là où je trouve que les questions générales n'ont pas de réponse, dans le sens où... par exemple, le jeune homme que moi j'ai rencontré, Alexis, qui habite à Avignon, qui a 12 ans et demi, bientôt 13, donc peut-être 13 déjà maintenant, dans cette espèce de flou artistique, de ses différentes envies, bah, il savait qui il était, quoi. Mmh. En fait, je me suis dit, en fait, on projette beaucoup de stress sur eux. Je crois que c'est les hommes de nos âges qui se posent archi des questions et qui sont un peu paumés. Mmh. Mais j'ai l'impression que quand ils ont 12, 13 ans, ils sont plutôt dans la bonne voie. Enfin, en tout cas, Alexis, lui, avait l'air de bien faire cohabiter les deux mondes à l'intérieur de lui. C'est-à-dire celui d'être encore un garçon et d'être en train de devenir peut-être de devenir un jeune homme, quoi. Après, je trouve que c'est chouette que les questions qui nous traversent, nous, en tant qu'adultes, on prenne notre courage et qu'on aille le poser aux plus jeunes, quoi. Mmh. Ceux qui seront là plus tard et qui seront peut-être nos patrons. Enfin, non, mais voilà.
Ou vos employés.
Ou nos employés.
Ah. Bon, prenons un exemple, Charline. Enfin, je veux dire, Charline, prenons un exemple.
Alors, Béry, vous le disiez, vous avez interrogé Alexis, 12 ans et 9 mois, un garçon, je cite, créatif et à l'écoute, qui se pose beaucoup de questions, qui travaille sur la gestion de la colère. Et quand vous lui demandez c'est quoi être un garçon, voici ce que lui vous répond.
Être un garçon, c'est apporter aux personnes, par exemple aux filles, ce que nous, on sait, notre savoir-faire. Que de pas rester dans son coin en disant je te dirai pas, je préfère le partager aux gens.
Comment toi tu te vois en tant que garçon?
Moi je me vois à l'écoute des gens et j'analyse les gens et après comme ça ça m'en fait mon expérience pour savoir ce qui se passe, ce qui va pas.
Alors ça, c'est donc un extrait de Entre, le podcast dont nous parlons aujourd'hui. Et là, c'était le jeune Alexis, 12 ans et 9 mois.
Dont on sent la générosité et l'ouverture, mais il dit quand même, être un garçon, c'est apporter aux autres, par exemple aux filles, ce qu'on sait et notre savoir-faire. Les filles, quand on est un garçon en 2022, c'est toujours les autres. C'est-à-dire que la construction se fait encore en contre.
Oui, mais je crois que c'est important. On est complémentaires, mais on n'est pas pareils. Mais après, peut-être que je suis pas encore. J'ai peur
assez
de.
Déconstruite.
Ouais, j'ai peur de dire un truc qui me fout dans le trou pour les 15 ans qui viennent. Mais
non, mais il y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Mais c'est une constatation. Pardon. C'est vrai. Oui. Qu'on se dit qu'a priori, ils ont plus tendance à être ensemble. On sent une vraie générosité, ces jeunes garçons. Mais quand ils parlent des filles, c'est quand même les autres.
Oui,
c'est une entité très différente, quoi. C'est un autre monde.
Surtout à ce moment-là les orientations sexuelles aussi se dessinent et donc forcément l'autre, peut-être ça peut être une fille pour Alexis, mais pour un autre garçon ça peut être un autre garçon, c'est l'enjeu de l'autre. Moi quand j'entends l'autre, j'entends le contact, oser toucher le coude, quoi. Ouais. Enfin, pas l'autre, ce truc un peu obscur qui met des débardeurs, quoi. Enfin, j'arrête, il me parle.
Je pose volontairement cette question de la place, des femmes, des filles en l'occurrence à cet âge-là, parce que vous, Ilham, vous avez rencontré Liam, qui vit seul avec sa mère, dont il dit d'ailleurs qu'elle a joué le rôle de père et de mère en même temps, et que sa mère, c'est un homme, un vrai. Et voici, de fait, sa définition à lui de ce qu'est un homme.
Pour moi, un homme, un vrai, c'est comme ce qu'on nous a toujours dit, c'est un pilier, que c'est quelqu'un qui est fort, qui sait se défendre physiquement. Voilà, un homme, c'est ça, un homme, c'est quelqu'un qui protège ses proches.
L'homme, c'est celui qui protège les siens, et c'est précisément ce qu'il dit aussi de sa mère. C'est un drôle de paradoxe quand même chez ce jeune homme.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que aussi quand je me souviens plus très bien si c'est dans le montage final, mais quand je lui ai posé la question « qu'est-ce qu'un homme pour toi ?», il m'a répondu « c'est un être humain avec un sexe masculin ». Donc il est aussi capable de dire ça, d'être dans une espèce de neutralité, on va dire. Et en même temps, donc, il dit qu'effectivement, il n'a pas eu de figure paternelle, voilà, à laquelle s'accrocher ou se voilà. Je recommence. Voilà, il n'a pas eu de figure paternelle, mais il s'en est inventé, ou en tout cas, il est allé en chercher ailleurs. Mmh. Et donc, il parle de Tupac. Donc effectivement, on fait un grand écart entre oui, ma mère c'est un homme, un vrai, ouais. Voilà, et Tupac, parce qu'évidemment sa mère ne ressemble pas du tout à Tupac. On est quand même très très loin de ce modèle-là. Donc voilà, c'est pour ça que je disais, je pense en tout début d'émission, que voilà, je sens quelque chose où en fait ils ont envie d'avancer. Ils sentent aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer, des codes qui s'explosent et tout ça. Mais en même temps, il faut bien qu'ils puissent s'accrocher à quelque chose. Mmh. Et c'est ce qu'on fait nous tous, nous toutes. On s'accroche à ce qu'on connaît, à ce qu'on a connu de nos mères, de nos pères, de nos grands-mères. Et que c'est extrêmement difficile, en fait, de se déconstruire et en même temps d'être, ouais, en même temps. Donc on existe avec notre histoire et tout ce qu'elle charge. Et donc je pense que voilà, c'est finalement oui, quand je disais que ces jeunes hommes étaient un peu perdus, je pense qu'on l'est tous un petit peu.
Ils sont un peu perdus, mais j'ai l'impression qu'ils se livrent assez volontiers. Non, moi c'est ce qui m'étonne le plus. J'ai le souvenir de cet âge-là où on me posait une question, je détournais le regard et je partais sur un faut trop pitié.
Oui, alors c'est peut-être que aussi on a ces garçons, on les connaît, alors pas toi, mais moi je connaissais Liam, je connais très longtemps, depuis sa naissance. C'est ce qu'il m'a dit, je lui dis mais je te trouve hyper à l'aise, il me dit oui, c'est toi, mais moi je connais sa mère, donc justement pour moi ça aurait pu aussi le mettre dans une situation un peu compliquée. Ouais. Et à un moment donné, il me dit, en fait, je voulais dire, et donc il savait plus, il me dit, c'est les couilles, non, c'est pas ça, je veux surtout pas, il faut pas que je dise ce mot. Et souvenir, alors je lui suggère, lesbienne, il me dit, oui, c'est ça, mais l'autre, il faut l'effacer. Donc, ils ont conscience, voilà, mais bon, ça se fait en marche, et eux, ils...
Ouais. Voilà, Mary, vous avez eu ce sentiment aussi, d'avoir affaire à...
Ben non, parce que Alexis, je le connaissais pas. Il avait été sélectionné, d'ailleurs, par Manon Eugel, qui a fait énormément, enfin, qui a 80% du casting de la saison 3 de Entre. Sophie Ilham qui a amené Liam.
Entre parenthèses, non, mais un casting qui essaye d'être un peu représentatif de la population.
C'est toujours compliqué, je crois. Ouais. Je crois que c'est compliqué. Je crois qu'on fait des castings aussi avec notre ressenti. En fait, c'est comme la réalisation. Tu mets ton regard vers qui tu vas tendre. Et je pense qu'il faut pas justement et c'est là où Manon a fait un très bon taf, c'est qu'elle elle a pas été plus loin. Elle a été sélectionnée des enfants de gens qu'elle connaissait. Enfin, il y avait quelque chose de précieux, de fragile et tout. Mais donc Alexis, je ne le connaissais pas. Il m'a repoussé 4 samedis parce que c'est un enjeu énorme. Donc 4 samedis, il y a eu une fois le foot, une fois le week-end chez maman, une fois... Il n'était pas à l'aise et je le comprenais totalement. Là, je me retrouve dans la même situation qu'Ilham, puisque j'ai interviewé samedi un jeune homme pour la suite de la saison 3, encore sur ces questions de qu'est-ce que c'est qu'être un garçon, et j'étais sa babysitter. Mais l'enjeu était... C'est... Voilà, et il a
C'était plus difficile ?
Oui, plus difficile, pas la conversation, j'ai moins eu l'impression de mouliner, justement, j'ai été un peu comme ce que tu disais, Ilham, genre, waouh, tu veux bien me donner tout ça, mais je dors plus depuis samedi. Je me réveille la nuit, je vois sa grand-mère, sa tante, son machin. L'enjeu de la matière, c'est très fragile et il faut faire attention.
Mais cette parole-là, précisément celle des ados, et quels que soient ces ados, est-ce que c'est pas une parole qu'on a encore tendance aujourd'hui à négliger ? On les entend pas si souvent, en réalité.
Surtout quand ils vont pas dans notre sens. C'est surtout ça. Surtout quand ils peuvent pas nous rassurer sur nos bons préceptes éducatifs. On est bien, hein. On est des bons parents, hein. Ah, ils sont éveillés.
Il est bien.
Ah, il est bien. Ouais. Tu vois. Alors quand ça va un peu à et d'ailleurs, c'est souvent un truc qu'on se dit, qu'on oublie. Mais moi, je me souviens qu'à 17-18 ans, quand j'étais la babysitter de ce garçon, mais toute ma famille parlait de moi. Ils étaient extrêmement préoccupés. C'était la fin du monde. Qu'est-ce qu'on va faire de Mary? Donc en fait, si à 18 ans toute ta famille parle pas de toi en se disant mais attends, il a des idées un peu intenses. Enfin, il faut éclore de la chrysalide, il faut péter les bords, quoi. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Liam ?
Oui, tout à fait. D'ailleurs, par exemple, avec Liam, même si il a été, je pense, assez spontané, il sait quand même à qui il s'adresse. Qui va écouter ? Ce sont des adultes. Et j'ai senti, et c'est une discussion qu'on a eue avec Somaya, Somaya Dabesh, qui est la réalisatrice, qui me disait, voilà, c'est ça un petit peu le problème, en fait, c'est que ils vont nous dire des choses qu'on a envie d'entendre. Ils vont aller dans notre sens. Et c'est vrai qu'avec Liam, j'ai eu aussi ce sentiment-là. Mais après, pourquoi pas ? Lui, il a envie d'être ce jeune-là. Là, il a envie d'être en conversation avec les adultes. Et je pense de faire un peu partie de leur club. C'est un peu ça l'idée.
C'est un projet tout à fait passionnant que ces conversations avec cette dizaine de jeunes gens pour ce podcast entre, que nous vous recommandons très chaudement. Mary, Ilham, nous allons continuer à parler de tout ça dans quelques instants, mais le temps est venu d'écouter le meilleur jingle de l'histoire de la radio. Que dis-je de l'histoire des jingles? Car c'est le moment de la chronique de Charline, le podcast.
Le podcast.
Le podcast.
Alors, si comme moi vous êtes fan de ce jingle, sachez que Charline est disposée à en créer un tout spécialement pour vous.
Je peux demander à l'équipe de 2 heures de perdu qui signe ce merveilleux jingle. Qu'y a-t-il derrière l'objectif? C'est le titre du podcast. C'est la question que s'est posée Marion Armango et à laquelle elle répond dans ce programme mensuel en interrogeant des grands reporters qui nous invitent à vivre un moment de l'histoire à travers leur histoire à eux, leur expérience du terrain et leur rapport intime avec les événements qui s'y sont déroulés. Ainsi, on peut y entendre Anne Niva raconter ses souvenirs de Tchétchénie en 99, le photographe William Daniels, la Centrafrique en 2013, le journaliste Benoît Chaumont et son voyage mouvementé en Corée du Nord, Omar Waman, journaliste à la rédaction internationale de Radio France qui a suivi une famille de réfugiés syriens qui tentaient de fuir la guerre, ou encore ici la photojournaliste Chloé Charoc, que son travail sur le droit des femmes a emmené en Égypte en 2018, alertée par le taux délirant de pratiques d'excision.
Je débarque au Caire avec beaucoup comme d'appréhension. Tous les retours que j'ai eus, c'est à quel point c'est excessivement difficile de travailler là-bas. Et surtout sur des sujets un peu tabous. Et le mien était particulièrement tabou. Il touchait à la sexualité, aux droits des femmes, à la religion. Donc c'est vrai que je mettais un peu, on va dire, mon nez dans des problématiques qui n'étaient pas du tout faciles à traiter, du tout. En Égypte, c'est vrai que c'était particulièrement compliqué parce qu'il y a une espèce de paranoïa ambiante au sein de la population même également envers les journalistes étrangers. Apparemment, il y a un réel problème, surtout pour les photographes. Et effectivement, en Égypte, dès qu'on sort un appareil photo dans la rue, on a tout de suite un policier qui vient nous dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous photographiez? Montrez-moi l'image !» Alors là, j'étais vraiment partie avec l'idée d'essayer de montrer un petit peu l'évolution en fait de la lutte de cette pratique. Et donc, de quelle manière le gouvernement ou les ONG en place ou les activistes réussissaient ou ne réussissaient pas à faire reculer justement cette pratique. Donc l'idée, ça a été vraiment d'arriver sur place et essayer de contacter un maximum d'activistes, de féministes, d'ONG, qu'elles soient locales ou internationales, des avocats pour les droits des femmes, des figures un petit peu qui essayent de combattre un petit peu tout ça. Et c'est vrai que là, très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait rien, mais rien de tout ça.
La suite de ce témoignage, c'est dans Derrière l'objectif, une production Make Some Noise, et c'est dispo sur toutes les plateformes.
Changement total de sujet, puisque le deuxième podcast que vous nous proposez, Charline, est une étrange fiction.
Qui nous emmène dans les couloirs d'un hôtel très particulier, l'hôtel Gorgias, et l'intrigue se dévoile dans une bande-annonce qui ressemble fort à une offre d'emploi.
Je m'appelle Sesco, et je suis maître d'hôtel au Gorgias. La direction de l'établissement m'a demandé de lancer un appel à candidature via ce podcast. Nous recherchons un profil particulier de collaborateur, car ici, à l'hôtel Gorgias, nous proposons un service unique. Nos clients ne viennent pas pour le confort de nos chambres, ni même pour la gastronomie de notre chef étoilé, mais pour une raison plus personnelle. N'essayez pas de consulter les avis sur notre établissement, vous n'en trouverez pas. Et si vous souhaitez postuler, eh bien un conseil, ne mentez pas sur qui vous êtes. La direction n'a pas pour habitude de croire aux chimères. Et si vous êtes fait pour ce travail, vous le saurez une fois franchi le palier de la porte. Tous les profils sont acceptés, mais sachez que ce travail requiert un dévouement total envers l'hôtel, ainsi qu'envers ses clients. Et il n'y aura pas de demi-mesure. Mais bon, si l'on vous choisit, c'est que le poste était fait pour vous, et non l'inverse.
Hôtel Gorgias, c'est 6 épisodes écrits et réalisés par Roman Fasarias Lacoste. Ne résistez pas à postuler. C'est une fiction, la fabrique des parallèles, et c'est disponible partout.
Alors, Charline, pardonnez-moi, ça fait longtemps que j'ai envie de vous demander ça, mais comment tu dates ?
Non, tu dates.
Comment
parce
tu dates?
Parce que je date, en fait, je note mardi, mercredi, jeudi, vendredi, l'année, tout ça. Mais là, c'est plutôt comment tu dates.
Comment tu dates?
Eh ben, c'est une question très personnelle et c'est surtout la question que pose Marie De Brouwer dans le podcast du même nom.
Séduire, draguer, rencontrer, dater. Bref, pécho. Pour Marie De Brouwer, une femme drôle et charismatique, c'est pas facile. La dernière fois qu'elle a roulé une galoche, Jacques Chirac était encore vivant. Alors, elle va papoter avec des gens, en tête à tête, qui, comme elle, galèrent parfois à pécho. Bienvenue dans Comment tu dates.
Marie De Brouwer invite donc des personnes au parcours particulier. Comment on date quand on est bipolaire? Comment on pécho quand on est un ancien détenu? Voici quelques-uns des témoignages que vous pourrez retrouver dans ce programme produit par 3 jours de marche et disponible lui aussi sur toutes les applis.
Merci Charline Ilhammad, Mary Royer. On continue à parler de votre podcast dans la suite de l'émission, juste après un nouveau morceau de Parquet Courts. C'est Watching Strangers Smile.
Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Je suis Ilhammad.
Je suis Mary Royer.
Et nous sommes des filles de lutte.
We also have the right to choose who we have sex with, and we damn sure have the right to say no.
Depuis notre enfance, on a baigné dans les histoires de nos mères. Nos mères étaient féministes en 70, vivaient leur sexualité librement et leur priorité était d'avoir un salaire à elles pour ne jamais dépendre d'un homme.
À
cet endroit, elles ont réussi.
Et puis, il y a eu les mariages, la carrière et la maternité. La face B du féminisme.
Aujourd'hui, on a 35 et 40 ans. Comme nos mères, on a fait des filles. Et la face B, on est en plein dedans. Et bien qu'on soit né avec une cuillère de féminisme dans la bouche, on n'a pas vraiment l'impression de s'en sortir mieux que les autres. On s'est demandé ce qu'on avait retenu de cette éducation féministe.
Ilham Mad, Mary Royer, ce que nous venons d'entendre, c'est un extrait de Filles de lutte, ce podcast que vous avez aussi créé ensemble en 2020, à propos de la transmission de l'héritage féministe. Autrement dit, que faire du féminisme hérité de vos mères, puisque ça a été le cas à vous deux. En quoi est-ce que ça demande des ajustements, ce fameux héritage?
Alors,
vas-y, fonce. Okay.
Alors moi, vraiment, j'ai grandi avec une mère qui parlait du MLF tout le temps, voilà, de ses manifestations. Moi, j'ai vraiment grandi avec ça en me disant, oh, ma mère est géniale, elle s'est battue pour ses droits. Et avec ses copines, ils ont fait le tour de l'Europe, en voiture, seule. Enfin, j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère et ses copines. Et puis, mais je comprenais pas comment ces deux femmes pouvaient cohabiter dans le même corps. À la fois, elle était cette femme militante qui avait beaucoup milité, et à la fois, elle était cette femme qui attendait mon père le soir. Et lui, c'est vraiment, il mettait les pieds, ouais, un peu sous la table, et donc elle sapait le double boulot, comme ça a été le cas pour énormément de femmes, je pense, de cette génération. Et donc voilà, ça a été toujours un espèce de, ouais, d'un gros paradoxe qui faisait que moi, je pense que j'avais du mal à savoir quelle femme il fallait être entre ces deux-là, et s'il y avait une possibilité d'être entre ces deux-là, ou s'il fallait choisir. Et donc ça a été une question qui m'a, ouais, qui m'a suivie tout au long de mon histoire, mais dont j'avais pas conscience. Et c'est en parlant avec d'autres, avec des amis, pas Mary en premier, si on en a parlé un peu ouais. Mais avec Marie notamment, qui est celle qu'on a interviewée pour le premier épisode, où vraiment là on s'est reconnus, on s'est dit ah mais toi aussi, ah le féminin, ah oui toi aussi c'est compliqué. Et donc voilà, et donc on s'est toujours dit qu'il fallait faire quelque chose autour de ces questions-là, et donc c'était important d'aller rencontrer d'autres filles qui avaient connu aussi ce même miroir déformant.
Mary, vous aussi, vous êtes une fille de lutte?
Oui, je suis une fille de lutte, en plus, pour alourdir le... Bon, je sais pas, bah, c'est peut-être pas le terme, mais ouais, l'héritage. Enfin, en tout cas, pour il y a beaucoup. Je viens du côté de ma mère, c'est full matriarcat. Vraiment, c'est vraiment, voilà, toutes ces femmes ont beaucoup œuvré. Entre autres, une qui s'appelle Benoît de Groult, qui était là. D'ailleurs, du côté de la famille de Benoît, on dit Benoît de Groult, et du côté de ma grand-mère, on dit Flora Groult. Bon, bref, elles étaient sœurs, les deux. Il y en avait une archi-militante, l'autre un peu plus, justement, dans la phase B du féminisme, mais qui faisait comme elle pouvait. Bref, donc, dans tout ça, j'ai vraiment pas regardé, j'ai pas fait attention, j'ai traversé la vie sur un tapis de privilèges, et après, je me suis retrouvée en postpartum, et là, j'ai capté que bah ça n'avait pas de sens, tout ce qu'on m'avait transmis, ça avait un sens. Évidemment, si, c'est des valeurs, ça te tient, ça te... Mais c'est une culture qui est commune, mais qui n'est pas à l'épreuve du réel. Ouais. Et ça, finalement, moi, le seul truc que ma mère m'a dit quand elle a vu que j'attendais un enfant, elle m'a dit « tu ne dormiras plus jamais pareil ». C'est vrai. Mais en fait, je n'ai plus dormi. C'est... et donc, en fait, entre ça et « il faut continuer à militer », et elle m'a dit aussi un autre truc, quand même. Et qui, je pense, a allumé un truc, elle m'a dit « c'est dans le travail que tu iras reconquérir ta liberté ». Oh, j'étais là, empêtrée dans mes bourrelets, j'ai rien compris. Hein, les trucs. Et en fait, c'est vrai qu'au bout de 6 mois, quand j'ai vu un peu de lumière au bout du tunnel, et que Ilham, en plus, elle aussi, avait une jeune enfant, et donc on était un peu, on partageait ce moment d'entre-deux où on te met... C'est toute seule que tu te sors du truc, quoi. Et le réseau, la mafia silencieuse des femmes entre elles. Je me suis dit, ah ouais, c'est que dans le taf. Et puis, bah, comme on est traversé par ces idées, bah, attends, elles font quoi, les autres filles de féministes? Comment elles se sont débrouillées? Comment tu le portes, cet héritage? Qu'est-ce que t'en fais?
Mais vous avez une jolie formule, vous parlez de la phase B du féminisme. Alors, si on part du principe que la phase A était un hit, la phase B, c'est quoi?
C'est le slow, c'est le slow, c'est ça, c'est le collet serré. C'est là où il faut se faire des alliés, c'est là où il faut justement, enfin, faire des choix peut-être. Ouais. Peut-être. C'est ça. Non, c'est pas le. Non.
C'est un inédit ou ça peut être un inédit aussi.
Un
ça.
Inédit.
Ça peut être un remix aussi. Ouais.
Exactement.
Ouais, un remix. Ouais. Bon, vous avez par exemple réalisé un entretien avec Marianne, une des 12 enfants adoptés de Joséphine Baker, qui fut en dehors du show business une militante des droits civiques et des droits des femmes.
Elle a fait la marche à Washington avec Martin Luther King. Et c'est la seule femme qui est montée à la tribune et qui a pu parler. Ouais. Elle était très, très fière de ça. Mais elle est venue dans son uniforme français. Pour allier les deux, pour expliquer, moi je suis française, américaine de souche, certes, mais surtout avant une défendresse, on doit dire, j'ai un truc comme ça, des droits de civiques de chacun, hein, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, ou, etc. Ben, elle a continué, elle a dit, je l'ai démontré avec mes enfants, il est temps que ici aussi ça bouge.
Ça, c'était un extrait de Filles de lutte de Ilham Mad et Mary Royer, l'autre podcast alors qui a deux ans d'âge celui-là. C'est presque l'ancêtre déjà. Mais absolument, absolument épatant à écouter. Voilà, aussi également conseillé par Popo Podcast aujourd'hui. Petit pop break maintenant dans cette émission parce que c'est dans ce numéro de Popo Podcast, c'est l'heure des pop news. Et évidemment, des pop news est spéciales.
Josh Olson est scénariste en lui donnant entre autres History of Violence et dans un autre registre Jack Reacher, Joe Dante réalisateur de Gremlins pour n'en citer qu'un. Ensemble, ils animent un podcast baptisé The Movies That Made Me dans lequel ils interrogent leur père, comme le titre l'indique, sur les films qui ont fait les cinéastes, les acteurs qu'ils sont aujourd'hui. Leur casting donne le tournis de Guillermo del Toro à Steve Van Zandt en passant par Adam McKay et Shane Black. Petit aperçu de la tonalité avec Joachim Trier, réalisateur de Julie en 12 chapitres, interrogé sur sa façon de mettre en scène des scènes hallucinatoires.
I completely, since I was a kid, have just watched all kinds of strange things. And you know, someone was saying to me, like, you know, so what are the references for this film? And I was like, to be honest, it could be all the way from Cheech and Chong till Ingmar Bergman. You know, like, I'm inspired by all kinds of weird things. So, like, mushroom trips, yeah, sure. You know, I'm curious about psychedelia, sure.
And The Movies That Made Me est dispo sur toutes les applis. Où l'on s'intéresse à des chansons particulières, leur histoire est celle de ceux qui les ont créées, et la chanson du jour, c'est celle-ci. Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Comment cette production Stock Aitken et Waterman, grand pourvoyeur de tubes en synthétique dans les années 80, est devenue un énorme succès et un phénomène culturel du net? La réponse est dans le podcast The Story Behind the Song, à retrouver sur le site musical Consequence of Sound.
France Inter. Pop, pop, pop.
Ah oui, c'est moi.
Encore jour la salle, mais on avait dit que c'était fini là. En fait.
Mais après, je vous fous la paix avec mes 3%. Merci Charline. Ilham Mad, Mary Royer, je vous propose de rencontrer un super-héros dans la suite de Papa Podcast, juste après un morceau signé Jack White, c'est Shedding My Velvet. Jack White, Shedding My Velvet, cet extrait de l'album Fear of the Down. Vous écoutez Popo Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Mais... Oh, mais encore une feuille qui s'envole. Et ça, ça veut dire, immanquablement, que c'est l'arrivée de Thomas Biaski, ou plutôt Cosmo Flash, qui vient de se poser sur son fauteuil.
Voilà, c'est bon, je suis posé.
Bonjour Cosmo.
Bonjour Antoine.
Cosmo,
bonjour.
Bon. Bonjour, bah oui, dites bonjour. Bonjour, oui, bonjour. Peut-être présentez-vous. Voilà, dites bonjour, ouais, je suis Cosmo.
Je viens d'atterrir.
Voilà. Alors Cosmo, mon super pouvoir à moi, c'est d'anticiper l'avenir et je sais que vous allez nous parler de podcast.
Alors oui, cette semaine, je vais vous parler d'un gecko. Et pourquoi c'est peut-être le futur du podcast.
À quoi?
Un gecko. Alors plus précisément, je vais vous parler de Thérapie Gecko. Oui, c'est très drôle, vous allez voir. Thérapie Gecko, c'est une émission en direct sur Twitch et un podcast dans lequel, sur fond de smooth jazz, Lyle Drescher, un jeune homme de 25 ans déguisé en gecko, donc répond face caméra en gecko. Il répond face caméra aux appels téléphoniques de ses auditrices et auditeurs qui souhaitent partager des histoires de leur vie. Bon là, jusque-là, rien de trop bizarre, c'était le déguisement de gecko, je répète, parce que vous n'avez pas bien compris. Et comme le podcast est enregistré en direct et plutôt tard, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre quand quelqu'un appelle l'émission. Au bout du fil, certains ont l'air défoncés, d'autres viennent se défouler et rigoler. Et enfin, certaines personnes partagent des moments de vulnérabilité. Mais la plupart partagent des histoires bizarres, des passions étranges et se demandent finalement s'ils sont les seuls à faire ça. Comme ce mec qui ne fait pipi que dans sa douche et celle des autres.
I like to pee in the shower. I know you're gonna be like, everyone pees in the shower. But I only pee in the shower. It's just more fun. It's like a urinal, but at your house.
What do you do if you're like out in public and you need to use a public restroom?
I'll pee like in a restaurant. But like if I'm at a friend's house or my parents' house, I pee in their tub. I don't get like pleasure. Like I'm not like some sicko. It's just more convenient.
You know, you also are saving a lot of water.
Voilà, c'est une des marques de fabrique du personnage de Lyle Drescher. Toujours rester impassible devant les histoires à dormir debout de ses invités. Ici, le mec lui raconte qu'il ne fait pipi que dans sa douche, qu'il fait la même chose chez ses parents et ses amis. Donc voilà. Et là, le thérapie gecko ne perd pas le nord et lui répond qu'au moins, il économise beaucoup d'eau en tirant pas la chasse.
C'est tout à fait exact. Mais quoi d'autre?
Alors, vous n'êtes pas au bout de vos surprises, Antoine. L'extrait qui va suivre a récolté plusieurs millions de vues et d'écoutes sur les réseaux sociaux. Et vous allez vite comprendre pourquoi.
I collect my roommate's toenails and fingernails, and I don't know how to stop. I would see them on the floor in our living room. It started off with me getting really upset about it, and then as time went on, I kind of just started collecting them.
How do you think he would react if he found out?
We're both pretty weird. I don't think it would be a deal breaker for the friendship.
Do you have any sort of master plan, something that you want to do with these fingernails and toenails?
I want to burn them to see how they smell.
Interesting.
Pas l'intention de les consommer, donc.
Non, on dirait pas.
Mais c'est vol au-dessus d'un nid de coucou.
Donc là, l'invité en question, j'explique, hein, raconte à Thérapie Gecko qu'il récolte et collecte depuis assez longtemps les ongles de son colocataire. Bon là, hein, si on est quelqu'un de normalement constitué, on souffle un coup et on se demande d'où sortent ces gens. Mais là, il est un intervieweur de génie et continue, impassible de poser des questions. T'as pas peur que ton coloc découvre ce que tu fais? Réponse, non, lui aussi fait des trucs bizarres de toute façon. Mais du coup, qu'est-ce que tu prévois de faire avec tous ces ongles? Je pense que je vais les brûler pour voir comment ça sent. Voilà. Alors à cela, notre Gecko répond d'un laconique intéressant et s'ensuit une autre marque de fabrique de son émission, de longs silences très gênants en regardant la caméra au bout desquels notre hôte raccroche poliment le téléphone. Mais parfois c'est lui qui est très gênant avec ses invités.
What's up?
Just watching your stream and doing a puzzle.
What kind of puzzle?
It is some dolphins and fish and a stingray. It's 750 pieces.
Trick question. You're not supposed to know what the puzzle is because it's not done yet. So you're lying. You're not doing a puzzle. What are you doing?
There's a picture on the box, though.
I forgot that they put pictures of the puzzle on the box.
Yeah.
So what did you want to talk about tonight?
Alors son invité lui explique qu'elle écoute pendant qu'elle l'écoute, donc notre thérapie Gecko, pendant qu'elle fait un puzzle de dauphin visiblement. Elle lui répond qu'elle et lui il lui répond qu'elle ment parce que on ne sait pas à quoi ressemble un puzzle avant de l'avoir fini en fait. Hein. Et puis elle lui explique calmement que l'illustration est sur la boîte en fait. Mm-hmm. Et là s'ensuit de longues secondes où il regarde la caméra visiblement très très gêné.
Et pourquoi vous nous parlez de ce podcast sur les puzzles et sur les angles de pied?
Alors si je vous parle de ce podcast, c'est pas seulement parce qu'il est très drôle, mais avant tout pour son mode de diffusion et la façon dont il s'est fait connaître. Là, elle a commencé son émission en juin 2020, pendant la pandémie. Et grâce à AirPan, le service de live streaming du site communautaire Reddit, il devient extrêmement connu et il étend ensuite sa diffusion sur Twitch. Mais ce sont surtout des extraits viraux de Thérapie Gecko postés sur YouTube, Instagram et surtout TikTok qui ont popularisé l'émission. Thérapie Gecko est carrément devenu un mème sur Internet, au point où des stars du rap comme Lil Yachty ou Denzel Curry ont revêtu leur plus beau costume de Gecko et ont animé les épisodes avec lui. Alors oui, Thérapie Gecko, c'est un podcast avant tout, mais pas que. C'est une émission live, des vidéos virales, une communauté d'auditeurs. Bref, c'est un phénomène dont seul Internet a le secret. Et c'est peut-être aussi ça un podcast en 2022, une expérience communautaire à cheval entre plusieurs médias, tirant parti de la force des réseaux sociaux pour proposer plusieurs modes d'écoute, et en fait qui permettent à n'importe qui de rejoindre le délire sans avoir l'impression d'avoir raté quelque chose ou de devoir tout rattraper.
Merci Thomas Biassi. Merci Cosmo Flash. Enfin bref, merci à tous les deux, mais le voici déjà qui se réenvole. Oh, mais cette visite à chaque fois ressemble à un éclair. Ah, ça y est, il est parti. Mary Royer.
Oui.
Ilham Mad, ce sera à votre tour de nous conseiller un podcast dans un instant, juste après un classique de chez Classique, c'est Arrested Development, People Everyday.
Take the brother out for being rude. Hey! And like I said before, I was mad by them. It took three or four cops to pull me off
they
of him.
Off
but
of
that's
him.
The story, y'all. Black man. Get stomped by an African.
You see?
I Arrested Development, People Every Day, c'est le dernier morceau de ce nouveau numéro de Pop-Up Podcast. Mary Ilham, nous avons l'habitude de demander à nos invités de nous conseiller un podcast, celui que vous écoutez en ce moment ou que vous trouvez incontournable, et nous appelons ça le podcast. D'ailleurs, Mary Royer, c'est votre podcast Première Loge que Pénélope Boeuf nous avait conseillé dans cette séquence quand elle était venue dans cette émission. Mais pour l'instant... Le jingle pénible est une référence, me dit-on, à une émission populaire où il était question de gagner des sommes folles. Rien à voir donc avec le podcast que vous nous conseillez puisqu'il s'agit de Secret d'un père. C'est un reportage de Aladin Zayan diffusé dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
Mon père a eu plusieurs épouses. Une première compagne qui était française quand il est arrivé en France en 1948. Donc il a eu deux garçons. Avec elle. Ensuite, ils se sont quittés, voilà, et il s'est marié avec une femme qui venait d'une certaine bourgeoisie, qui était d'origine iranienne et espagnole. Il a eu 5 enfants avec elle, et elle est décédée après avoir donné naissance au 5e.
Secret d'un père, diffusé sur France Culture, dans Les Pieds sur Terre. Alors, expliquez-nous votre choix.
Aladin Zayan est le meilleur auteur aujourd'hui en podcast. Voilà. Bon, après moi j'ai pas je sais pas être entre deux. Je suis fan.
Cette entière.
J'arrive pas vraiment, c'est je trouve que tout ce qu'il signe est audacieux, il amène des paroles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la maison ronde et dans d'autres médias. Mmh. Il a la dalle, il a envie de faire des trucs, il prend des risques et là on aime particulièrement cet épisode parce qu'il interviewe quelqu'un que nous admirons beaucoup. Ilham, je te laisse la parole.
Oui, Nadia Enimoulay qui a sorti un livre sur donc le secret de son père qui était choquiste, donc homme de main du FLN. Et donc elle a découvert ça vraiment sur le tard quand son père était vraiment vieillissant et commençait à être fragile. En racontant cette histoire, elle ouvre aussi une conversation sur notre histoire avec l'Algérie. C'est une conversation qu'on a eu du mal à avoir jusque-là. Alors c'est vrai que cette année, il y a eu beaucoup de projets. Il y a eu l'anniversaire des accords d'Évian, je pense qu'on... Et puis voilà, les choses avancent aussi. La parole, elle se libère, même si c'est très galvaudé de dire ça aujourd'hui. Mais je pense que voilà, sur des histoires qui peuvent dépendre de notre histoire, qui sont très douloureux, mais voilà, qu'il faut aussi regarder en face. Et là, pour le coup, je trouve qu'il y a un ancrage très fort et que du coup, on rentre dans cette histoire, donc on en apprend beaucoup sur cette histoire et aussi sur nous-mêmes à travers son regard qui, lui, est double, puisque elle est née en France, elle a grandi en France et qu'en même temps, elle est aussi héritière de cette histoire qui lui appartient sans lui appartenir, mais dont elle porte quand même les stigmates. Voilà.
Merci Lamad, merci Mary Royer. Alors je rappelle d'abord ce podcast que vous nous conseillez vivement, c'est Le Secret d'un père, c'est un reportage de Aladin Zayan diffusé dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. Et votre podcast à vous, c'est Entre, que l'on peut trouver sur, alors c'est une production Louis, et disponible sur toutes les plateformes, sur tous ces jeunes gens que vous avez interviewés pour redéfinir la masculinité aujourd'hui. Tout ça est très passionnant, merci infiniment de nous avoir rendu visite à toutes les deux.
Merci Antoine.
Merci Charline.
Merci à vous.
Et merci à toute l'équipe de Pop-Up et à Julien Dumont qui était à la technique aujourd'hui.